J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un homme qui marche. Il marche, mais on dirait qu'il danse. Il y a quelque chose dans le balancement de ses épaules, dans sa manière de sembler à peine toucher le sol. C'est dur à définir, mais ça vient de très loin. Petit déjà, sa mère lui disait « Tu marches comme une danseuse ». Ça le vexait un peu. Il se voulait plus viril qu'une danseuse. Ça le vexait un peu et ça rendait en même temps sa sœur jumelle jalouse. Elle, à côté, elle se sentait pataude, lourde, comme si son frère avait reçu à lui seul toute la grâce de la danse. Mais au fond, de quoi parle-t-on ? Est-ce une manière d'habiter l'espace ? Pas seulement. On peut faire de la gymnastique ou même du yoga sans pour autant danser. Alors est-ce une manière d'habiter le temps ? Oui, probablement. Chaque fois qu'il arpente le trottoir, il apprivoise le temps. Il inscrit son mouvement dedans. Il fait du temps son ami. Et si danser, c'était en même temps s'envoler et se reposer sur le temps ? Prendre le temps de s'envoler et savoir en même temps retomber sur ses pieds. Que soit perdu pour nous le jour où l'on n'aurait pas une fois dansé, dit le Zarathoustra de Nietzsche. Il faut croire qu'en dansant, on rencontre l'énergie d'une vie qui passe par notre corps mais qui est plus grande que lui. Voilà pourquoi danser nous fait tant de bien. Aujourd'hui qu'il a grandi et que sa mère n'est plus, il comprend le compliment qu'elle lui faisait. Il pense aussi au mot « trottoir ». C'est un drôle de mot, non ? Si l'on veut bien tendre l'oreille. Le trottoir, c'est le lieu où l'on trotte ? Le lieu peut-être où les hommes trottent en vain vers des choses aussi inessentielles qu'un bus ou pire encore, une réunion ? Trottoir. Il se dit parfois que ce mot à lui seul résume toute l'absurdité de la condition humaine. Mais lui, sa mère avait raison, lui, il ne trotte pas, il danse. Mais à quoi ça tient ? Quand est-ce qu'un mouvement devient, à proprement parler, de la danse ? Et cette danse, de quelle pesanteur nous libère-t-elle ? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir une danseuse, chorégraphe, metteuse en scène, actrice. Avec plus de 30 créations à son actif, cette chorégraphe espagnole, vivant à Paris depuis 30 ans, a fait danser les Daft Punk, Blur, Beyoncé, Paul McCartney, Kylie Minogue, mixant depuis toujours toutes les danses et toutes les cultures, flamenco, ballet, danse baroque, hip-hop évidemment, chorégraphiant les défilés de Jean-Paul Gaultier, d'Asdin Alaya, de Valentino et de bien d'autres, ayant obtenu en 2021 le Lion de la meilleure expérience en réalité virtuelle au Festival international du film de Venise pour son très réussi Bal de Paris, Blanca Lee, puisque vous l'avez reconnu, est avec nous ce matin sous le soleil de Platon et en sa compagnie. Nous allons nous demander ce que la danse fait à notre humanité. Nous allons nous demander tout simplement pourquoi la danse a ce pouvoir fou de nous réconcilier avec la vie.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Blanca Lee.
Quelle belle introduction.
C'est surtout vous qui êtes là et merci d'être là. On entendait aux infos Alcaraz qui fait des siennes à Wimbledon et j'avais pas prévu de parler de ça, mais Alcaraz il danse, non ?
Oui, tout le temps il danse. C'est les mouvements qui touchent la beauté.
Ah ben justement, c'était la première question que je voulais vous poser. À partir de quand, finalement, ça devient de la danse ? On n'est quand même pas tout le temps en train de danser. Est-ce qu'il n'y a pas une frontière parfois un peu floue entre un mouvement sportif, habituel, et puis la danse ?
C'est sûr qu'il y a une limite qui est difficile à comprendre et à expliquer, mais je dirais peut-être qu'on danse à partir du moment où on fait des gestes qui ne servent à rien.
Ah oui.
Peut-être que c'est ça la différence. Et parce que quand on marche, quand on fait des gestes quotidiens, ça pourrait presque être de la danse, ça dépend de comment on le fait, mais on le fait peut-être avec un sens, alors que quand on danse, c'est peut-être les mêmes gestes, mais qu'on n'a pas vraiment une finalité.
Ah oui.
C'est juste pour les plaisirs, la beauté, pour...
C'est gratuit, quoi. Mais ça, c'est très intéressant, parce que comme on sait qu'il y a des animaux qui dansent, mais peut-être que justement, ils dansent pour quelque chose, et nous, on serait les seuls animaux à danser pour rien.
Mais non, c'est pas vrai, parce que des fois, par exemple, on peut séduire avec la danse, non ? Avec les mouvements, avec les corps. C'est pas des gestes quotidiens qui servent à quelque chose de concret, mais par exemple, danser pour séduire, et
bah oui,
il y a une finalité, mais en même temps, et il y a une liberté, il y a une communication à travers les corps et les mouvements qui peut être très incroyable. Ah et bah moi, ouais. Je dis toujours, avec la danse, en réalité, on peut dire beaucoup de choses. On peut transmettre beaucoup d'émotions, on peut être en contact avec les gens juste par ces gestes qui ne sont pas spécialement définis au concret dans les messages, mais que ça dépend aussi de l'intention qu'on met dans l'interprétation, on peut aussi communiquer plein de choses.
Quand je vous écoute, Blangali, ça me rappelle quelque chose de terrible que vous connaissez peut-être. C'est la scène de danse dans le livre de Duras, Le ravissement de Lolvestein, où quelqu'un comprend que l'autre ne l'aime plus à travers sa façon de danser avec un autre. C'est dur, ça. Parfois, la danse trahit.
Oui, la danse trahit, la danse parle, la danse raconte beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi, j'avais très tôt dans ma vie choisi cette manière de communiquer, ce langage, parce que pour moi, je peux dire beaucoup plus de choses des fois en dansant qu'en parlant.
Bon, on va quand même essayer de se parler ce matin.
C'est plus dur, je peux danser si vous voulez.
Blancali, je voudrais aussi vous dire merci parce que votre dernière création qui s'appelle Le Bal de Paris, c'est une création qui revient en septembre à la scène musicale à Boulogne, en septembre prochain, mais la dernière fois qu'elle a été jouée, c'était au Palace, et moi j'avais participé à cette aventure, et j'essaye de la décrire, on est en réalité virtuelle, avec un casque, et on danse, on participe à une chorégraphie immense, en réalité virtuelle. C'était assez génial, donc je vous dis merci.
C'est vrai que c'est une expérience que j'ai créée parce que moi j'aime beaucoup justement faire les publics participer, ouais, et danser parce que souvent les gens nous regardent danser, ils disent ah j'aime bien la danse mais j'ose pas moi danser, j'ai peur de danser, et je me dis on a tous la danse en soi et il faut juste pouvoir se lâcher. Donc j'ai créé une expérience qui est une expérience en réalité virtuelle où les gens et le public est invité à un grand bal,
oui,
où mes danseurs de la compagnie vont les faire participer, ils vont danser, et ils vont participer à une histoire, ils vont faire partie.
Oui, il y a une narration, évidemment.
Voilà. Et le public, en fait, est invité à ces bals dans lesquels les personnages vont vivre une histoire, et le public, il devient partie de l'histoire.
Et
ce qui est très joli, ce que j'ai remarqué, c'est que justement, comment on a un casque et qu'on est dans un monde virtuel, on a un beau costume parce que on s'habille pour ces balles de manière virtuelle, on a un avatar, on peut choisir son costume, et à un moment donné, les gens se voient, et c'est comme si on allait dans un bal masqué, et ça libère aussi cette porte où on dit, j'ose pas danser, et en fait, les gens qui pensent qu'ils osent pas danser, dans les balles de Paris, ils vont danser parce que ils se sont justement libérés grâce à l'avatar et à le fait qu'ils ne soient pas eux-mêmes.
Eh bien, si vous voulez ainsi vous libérer, vous lâcher grâce à votre avatar, et on voit aussi que souvent vous faites appel à la technologie, eh bien, je précise que le Bal de Paris revient à partir de septembre à la scène musicale à Boulogne. Mais vous avez dit quelque chose de très beau, Blancali. Vous avez dit, on a tous la danse en soi, il faut juste la retrouver. J'adore cette idée. C'est un peu comme la confiance. On croit souvent, si on écoute des mauvais coachs en volontarisme américain, qu'il faut conquérir la confiance. Moi, je crois pas. Je renvoie d'ailleurs tout le monde à un très beau livre de Emerson qui s'appelle La Confiance, philosophe américain. Il dit qu'en fait, la confiance, ça se conquiert pas, ça se retrouve. On l'a à l'origine, mais on peut la perdre. C'est pareil pour la danse.
Exactement, c'est la même chose. On l'a, si on met les enfants tout petits avec la musique, on joue un peu des percussions ou on chante, tout de suite les enfants, ça c'est merveilleux. Moi, j'ai toujours aimé voir les danseurs quand ils sont tout petits et comment ils ont cette liberté, cette joie, et ils n'ont pas peur du regard des autres. Et petit à petit, on grandit, et par l'éducation, par notre vie, et par la société, on devient de plus en plus timide, des fois, il y a les gens qui ont peur de se montrer, qui ont peur, ils se disent non, je danse pas bien, ou je danse pas, ou j'aime pas la danse.
Ouais.
Mais en réalité, on voit très bien que quand on va dans une bonne fête, et que les gens disent, ah, c'était génial la fête hier, c'est parce que tout le monde d'un coup a dansé. Et en général, quand il y a un ou deux qui dansent, on n'ose pas dans une fête, mais quand tout le monde se lâche, d'un coup, on se dit bon, maintenant, ça y est, c'est mon moment, personne ne me regarde, je vais danser. Et c'est, en fait, la danse, c'est une vraie joie et c'est une espèce de thérapie aussi, ça te libère beaucoup, ça te fait sentir heureux en fait.
Et vous savez, on est sous le soleil de Platon, et pour Platon, pour réussir à penser, il fallait désapprendre des opinions, des préjugés. Dans un dialogue de Platon qui s'appelle le Philèbe, il dit l'opinion est du genre du cri, et apprendre à penser, c'est arrêter de crier, c'est désapprendre des mauvais réflexes. Peut-être que c'est pareil dans la danse, il faut désapprendre des gestes procédurier, habituel, il faut désapprendre des choses pour se lâcher.
Je pense que effectivement, il y a beaucoup de choses qu'il faut désapprendre dans la vie de manière générale et qui nous empêchent d'être libres. Et pour la danse, c'est ça en fait, des fois on se regarde trop dans les miroirs et on s'aime pas. Mais ouais, il faut apprendre à s'aimer, et c'est en dansant aussi Et même en dansant mal, qu'on peut apprendre à s'aimer.
Mais est-ce que danser mal, ça veut rien dire?
Non, ça veut dire juste qu'on se juge.
Ouais,
et
voilà.
En fait, quand on entend la musique et qu'on laisse notre corps juste libre et s'exprimer, on danse bien de toute façon. Mais il y a ce jugement qu'on fait nous-mêmes de nous-mêmes, justement, en se disant, oh, je danse pas mal, parce qu'on se compare peut-être à quelqu'un d'autre qui est à côté, qui danse, on considère qu'il danse bien. Et c'est pour ça, moi, j'aime beaucoup faire des expériences où les gens ont bien dansé, où on les pousse à danser, parce qu'ils se rendent compte que finalement, ils sont fous de les regarder sur.
Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que finalement, on pourrait penser qu'être humain, c'est tout le temps vivre sous le regard des autres, dans toute la tradition religieuse, philosophique. Il y a des yeux comme ça, soit c'est ma conscience morale qui me regarde, soit c'est Dieu qui me regarde, soit pour Sartre c'est les autres qui me regardent, et on pourrait penser que dans la danse on retomberait là-dedans, mais en fait non, quelque part danser c'est sortir du regard.
Oui, des fois c'est nous-mêmes les pires critiques, et c'est la peur beaucoup des fois qui est notre pire ennemi. On a peur. Donc, on a peur de quoi? On a peur des regards des autres, on a peur d'être ridicule, on a peur de que on nous voit faire quelque chose que les jours d'après on aura honte, en fait. Mais si on dépasse ça, si on se dit, c'est pas grave, je suis juste en train de m'amuser, en fait. Et qu'on se libère de ces peurs, et c'est un plaisir total. C'est un plaisir total.
Alors, je veux dire quelque chose qui m'avait beaucoup touché, et qui touchera aussi beaucoup les gens qui pensent qu'ils chantent faux. Un jour, un grand chanteur m'a dit, mais en fait, personne ne chante faux. On chante faux quand on n'a pas trouvé la manière de chanter qui nous correspond. Est-ce que c'est pareil pour la danse?
Non, je pense qu'on danse jamais faux. Moi, je pense que toutes les danses sont belles, toutes les danses sont bien. Même, j'adore, je veux dire, il y a des gens qui sont complètement arythmiques. Et ça, pour moi, c'est très intéressant.
Ouais.
Et j'adore regarder quelqu'un qui est arythmique, parce qu'en réalité, ce n'est pas que cette personne soit arythmique. C'est juste qu'elle entend le rythme à un autre endroit. Et ouais. Ça, pour moi, c'est toujours très magique. Et parce que nous, quelque part, avec notre formation de danseurs, on est entraînés à être constamment dans le rythme d'une manière professionnelle.
Bien
on
sûr,
a
bien
toujours
sûr.
Travaillé des années. On est parfaitement toujours en tempo. Et quand je découvre quelqu'un qui n'a pas ça, et j'essaie de comprendre où est-ce que cette personne est en train de sentir le rythme, c'est pour moi magique.
Et ben on va écouter Maurice Béjart qui peut-être va nous éclairer sur cette énigme.
La danse a ceci, qu'elle est à la fois du temps et de l'espace. Et que la danse, qui est très important, c'est la relation du temps et de l'espace. Mais dans la danse, le temps est beaucoup plus important que l'espace. Parce que c'est le temps qui fait qu'elle est danse. Tant qu'elle n'est que dans l'espace, elle peut être culture physique, elle peut être sculpture en mouvement, elle peut être des tas de choses. Mais c'est à partir du moment où un rythme arrive, qu'un homme tape des pieds ou bat sur un tam-tam, à ce moment-là, le temps intervient et le temps crée proprement le phénomène de la chorégraphie et de la danse.
Maurice Béjart, donc.
C'est sûr que les temps et l'espace est fondamental. Et nous, on travaille, quand on est professionnel, on passe notre vie 8 heures par jour de répétition face à un miroir en plus, à nous regarder, à perfectionner, à apprendre à nous connaître mieux à travers les mouvements pour arriver à la perfection. Et la perfection, c'est quelque chose d'inatteignable, c'est une utopie, hein, parce que même si on danse très bien, on peut toujours danser mieux. Mais c'est vrai que quand il parle de l'espace, c'est autre chose qui est très important pour nous dans la danse, c'est que souvent on danse ensemble et on n'est pas tout seul sur scène, donc on doit comprendre notre spatialité tout le temps et la mesurer par rapport à l'espace des autres danseurs qui sont sur scène. On doit souvent être placé à un endroit parfait et moi je suis en plus très obsédée avec justement les positionnements dans les plateaux, que tout le monde soit dans des figures qui sont créées très jolies, parfaites, une ligne parfaite, un triangle, un cercle, un carré, enfin,
ouais.
et tout, et pour faire ça, le travail qu'on doit faire des répétitions et des compréhensions de l'espace est très intense et ça prend beaucoup d'années.
Mais il dit quand même que c'est surtout le rapport au temps qui prime sur le rapport à l'espace malgré tout.
Oui, mais je veux dire, si on est que dans la danse pure, c'est surtout les temps, parce qu'on est libre, on danse tout seul, on entend la musique, on est, ouais. Et c'est cette interprétation des rythmes et cette liberté qu'on peut trouver à l'intérieur des rythmes. Mais quand je parle d'une chorégraphie, ça veut dire à partir du moment qu'on va créer quelque chose, et un spectacle avec beaucoup de danseurs dans un espace qui est quand même limité, l'espace ouais. scénique, qui est souvent assez limité, on a une obligation de travailler dans l'espace qui est nécessaire.
C'est la contrainte.
Fondamental et voilà.
C'est passionnant, Blancani, de vous écouter, surtout qu'on devine un peu la thématique de l'émission qui monte, à savoir ce mélange de maîtrise, de vous avez même dit, je suis obsessionnel, et d'abandon. Comment on arrive à la liberté, à la grâce, à l'issue de la maîtrise? Mais je précise quand même qu'on est sous le soleil de Platon et qu'on va faire un peu de philosophie. Et je voudrais maintenant que vous entendiez cette phrase de Nietzsche, on va la laisser résonner. Dans Zarathoustra, Nietzsche, et ceci est mon alpha et mon oméga, que tout ce qui est lourd devienne léger, que tout corps devienne danseur, tout esprit, oiseau. C'était Beyoncé, Summer Renaissance, logiquement sous le soleil de Platon.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Delega miseria. Delega matana.
Nous sommes toujours avec Blancali sous le soleil de Platon et c'est vraiment très agréable de vous écouter. Et on vient d'écouter à la fois Beyoncé avec qui vous avez bossé et Blur dont vous avez fait le clip et la chorégraphie.
Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes et pour créer justement des univers et des chorégraphies de leurs clips ou des concerts.
Et c'est marrant parce que dans le clip de Blur que vous avez chorégraphié, ça ressemble un peu au Daft Punk dans l'esthétique parce qu'ils ont tous des casques, enfin c'est des femmes qui dansent avec des casques. Il y a quelque chose d'un peu robotique et vous avez aussi travaillé avec les Daft Punk. Et on voit quelque chose dans votre esthétique intéressant, je dirais. Il y a quand même une réflexion sur le robot et sur la différence entre le robot et l'humain. Quelque chose d'un peu sensuel et mécanique à la fois et aussi une ouverture toujours à la technologie, j'ai l'impression.
J'adore la technologie. C'est vrai que j'ai découvert la technologie très jeune et j'ai continué à chercher dans la technologie des nouvelles formes de création et des nouvelles formes de raconter des histoires qui peuvent être réinventées ou même inventées grâce à les nouvelles technologies. Et c'est sûr qu'un de mes premiers spectacles très technologiques, c'était les robots. Oui. Et j'avais rencontré le petit robot humanoïde Nao et ils m'ont beaucoup inspiré. Je me suis dit comment sera le monde de demain, comment on va vivre avec les machines, est-ce qu'on aura tous un robot, est-ce que les robots pourraient danser à notre place. Et donc tout ça, c'était ma réflexion pour un spectacle qui était assez incroyable, dans lequel j'avais 8 danseurs et 8 robots. Et tous les spectacles se faisaient ensemble, les robots qu'on a dû chorégraphier, qu'on a dû programmer, qui étaient vraiment sur scène avec, tout le temps avec les danseurs. Et ça a été une expérience incroyable, assez drôle, hein, parce qu'on a vécu des choses incroyables avec ces petits monstres.
Ouais. comme si, pour se libérer du robot en soi, il fallait aussi danser avec lui.
Mais c'était pour moi vraiment une question de me dire, est-ce que notre monde va vraiment être contrôlé totalement par les machines? Et je dois dire que grâce à le travail que j'ai fait avec la technologie, je n'ai pas peur de la technologie. Et le plus que j'ai découvert, que j'ai travaillé, parce que maintenant j'ai fait mon nouveau spectacle, voilà, les Bals de Paris, qui est un bal virtuel dans lequel tout le monde est dans un monde incroyable qui n'existait pas. On a des
très onirique,
qui n'existaient pas, mais en même temps, on est en train de vivre une vraie expérience incroyable, unique, et qu'on ne pourrait pas trouver sans cette technologie. Mais en même temps, j'ai compris à chaque fois que j'ai travaillé avec la technologie que derrière il y a quand même toujours l'artiste, il y a quand même toujours les cerveaux, il y a quand même toujours une pensée, il y a toujours un vrai travail de création qui ne peut pas se faire tout seul. La technologie nous sert à les créateurs pour réinventer les choses, pour créer, mais personne pourrait le faire à notre place. Aucun robot pourrait inventer mon spectacle ni faire mon travail.
Pour l'instant.
Non, mais même, je pense qu'il y a quelque chose dans la création qui est inexplicable et que même nous, on ne sait pas, pendant qu'on est en train de créer, il y a quelque chose de très abstrait qui se passe en nous et qui ne pourrait jamais être remplacé par une machine.
Parlons justement de votre processus créatif. J'ai souvent entendu des chorégraphes dire « j'écris mon spectacle, j'écris ma création », alors que c'est censé être un langage par le corps. Et alors c'est une écriture, une chorégraphie ?
Absolument. Moi, en fait, les ballets, je les vois. Complètement dans ma tête, et avant même des...
Vous les voyez, donc c'est visuel d'abord, des images.
Oui, je les vois vraiment, je les vois grandir, au départ c'est juste des images, petit à petit elles prennent forme, elles vont se construire, et à un moment donné je sais exactement ce que je vais faire comme spectacle. Le problème après c'est de passer de ce qu'on voit, ce qu'on on visualise complètement, hein, parce qu'on sait ce qu'on veut faire, mais de transmettre ça avec les corps des danseurs, et les mettre sur un plateau, et faire tous les travaux de mise en scène, et c'est un travail qui est complexe, hein, parce que c'est la danse et un langage abstrait, comme on peut être la lumière aussi. Ouais. Parce que même quand je vois mes ballets, je les vois déjà éclairés aussi.
Mais vous voyez les images arrêtées au début. Vous voyez des images en mouvement.
C'est pas vraiment des images arrêtées. J'ai comme des
flashs.
Comme des flashs, des univers, quelque chose qui va se concrétiser petit à petit. Il y a un moment que je passe justement par les papiers pour pouvoir aussi et travailler avec mes équipes parce que pour qu'eux puissent travailler à côté de moi.
Vous voulez dire, vous dessinez ?
Oui, j'ai commencé à dessiner. J'écris, j'essaye d'écrire ce que j'ai dans ma tête. J'essaye de l'organiser, ouais. Parce que c'est un chaos total dans ma tête. C'est trop abstrait. Donc, je dois l'organiser et commencer à lui donner une forme pour pouvoir communiquer avec mes équipes de création.
Il faut avoir du chaos en soi pour enfanter d'une étoile qui danse. Nietzsche, vous avez dit, c'est un chaos en moi.
Total.
Mais j'ai pensé, en vous écoutant, je ne sais pas pourquoi, au dessin de Rodin. Moi, j'adore les dessins de Rodin. Du coup, par association d'idées, j'ai pensé aux danseuses cambodgiennes de Rodin, et puis à la danseuse de Degas, je ne sais pas, voilà. Je suis sur le divan, là, j'associe. Mais j'imagine que dans votre processus créatif, vous allez convoquer aussi d'autres arts, peut-être lesquels vous inspirent le plus. Est-ce que c'est la peinture, la sculpture, la photo, le cinéma?
En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que pendant les processus créatifs, il y a toutes les choses qui sont en toi qui viennent, qui se présentent sur des formes très différentes. Par exemple, il peut venir une image de quand tu étais petite, que tu as vécu en allant voir, je sais pas, un musée. Il peut venir à ta porte un livre que tu as lu il y a très longtemps. Ça peut être quelque chose que tu as vécu à un moment donné dans ta vie. Ça peut être une exposition. Ça peut être des images aussi qui te provoquent d'autres images. Mais en réalité, les plus que toi en toi, les plus des mondes imaginaires qui est rempli d'images et des choses que tu as vues, vécues, lues. Tout ça, c'est aussi de l'information qui va venir au moment de la création pour t'aider à comprendre ce que toi as envie de faire.
Maintenant, avançons dans le processus créatif. Il y a un moment où tout ça, les images, la musique, vous devez le traduire en gestes. Quel est le processus intérieur, c'est un peu technique, mais qui fait que on change des images, des inspirations en des gestes chorégraphiés? Comment ça se fait concrètement? C'est un peu technique, désolé, mais ça m'intéresse.
C'est très difficile à expliquer parce que ça se passe pas toujours de la même manière. Hein. Ça dépend. Et il peut arriver que j'ai une image très forte dans ma tête et que j'ai dit au danseur, voilà. Et aujourd'hui, j'ai besoin qu'on travaille sur, par exemple, la soif.
Ouais.
Et comment on exprime la soif avec les corps. Et on va peut-être passer une journée entière à chercher comment on peut traduire cette sensation de soif en mouvement. Et c'est très intéressant parce qu'on va passer par des choses très différentes. On va faire plein d'improvisations, d'exercices. Et petit à petit, on va trouver des choses qui sont assez spécifiques, qui transmettent cette sensation de soif par un mouvement.
Et c'est génial, parce que j'imagine aussi que dans le tâtonnement, vous allez travailler des mouvements qui vont créer d'autres sensations que la soif.
Absolument. Et c'est ça qui est très intéressant pendant les processus de création, c'est que des fois, en travaillant sur quelque chose, on va trouver une autre chose qui est encore plus intéressante.
Ah bah oui, bien sûr.
Et c'est ce que j'appelle accidents.
C'est le principe de la création, les accidents heureux, la sérendipité.
Et après, il y a d'autres fois où les processus créatifs peuvent venir par notre via. Par exemple, j'ai pu avoir une musique qui est très incroyable, qui m'inspire, que j'ai envie de danser. Et à ce moment-là, le geste va venir tout seul, remplir cette musique, parce que cette musique provoque quelque chose et fait ressortir un geste concret que je vais apprendre au danseur. Donc ça, c'est des systèmes et des manières de créer qui sont complètement différents. L'un peut venir par les improvisations, par des pensées, par des idées, par des émotions qu'on cherche.
Ouais.
Et l'autre va venir directement par une inspiration par un autre art.
Maintenant, Blancali, je m'adresse à la danseuse. Est-ce que les sensations que procure la danse sont toujours agréables?
Pour moi, oui. Pour moi, la danse a toujours été, mais vraiment très agréable. Même, je dirais, la douleur est agréable pour moi, parce que, je veux dire, pas la douleur quand on se fait mal, hein. J'ai dit juste, par exemple, cette sensation quand tu as travaillé toute une journée, que les matins après, toi, ton corps qui est un peu comme ça, avec une sensation, pas douloureux, mais dès que toi viens travailler. Ça, c'est très agréable. Pour moi, danser, c'était toujours une manière de vivre hors les temps, hors mon corps. C'est une expérience presque, comment dire, spirituelle. Hein,
ouais, comme si, finalement, on ne savait pas vraiment tout ce dont le corps est capable.
On ne sait pas ce que peut le corps. Vous voyez un bébé là qui rampe, hein. Vous voyez un alcoolique qui vous parle, hein, qui est complètement ivre. Et puis vous voyez un somnambule qui passe là. Oh oui, c'est vrai, on ne sait pas ce que peut le corps. Après tout, ça prépare singulièrement un autre cri qui retentira longtemps après et qui sera comme la même chose en plus contractée lorsque Nietzsche lance « L'étonnant, c'est le corps ». Ce qui veut dire quoi? Ce qui est une réaction de certains philosophes qui disent « Écoutez, arrêtez avec l'âme, avec la conscience, etc. Vous devriez plutôt essayer de voir un peu d'abord ce que peut le corps ».
Alors Blancali, l'étonnant, c'est le corps.
Absolument. Et je pense qu'il parle de la conscience. Et c'est vrai qu'il y a, pendant qu'on arrive à cette liberté totale de la danse qui peut amener à perdre la conscience. Ouais. Et c'est dans cet espace d'inconscience qu'on trouve des sensations merveilleuses.
Perdre la conscience ou peut-être accéder à un plus haut degré de conscience. Dans la danse sacrée, dans le chamanisme, on perd une conscience utilitaire, étriquée, rationnelle, pour peut-être arriver à de l'esprit, non?
C'est ça. C'est vraiment. Et c'est pour ça que dans notre métier de danseur, et la technique est une contrainte très forte qui fait que si tu n'arrives pas à dominer complètement la technique, tu ne peux pas arriver à cet autre endroit où vraiment. On a une énorme liberté où ton esprit va pouvoir retrouver son espace total. Et pour ça, c'est beaucoup, beaucoup d'années de travail et pour pouvoir interpréter tout ce que tu as appris avec ton corps. Et moi, si je pourrais mettre un exemple, peut-être,
oui.
C'est pour comprendre, c'est par exemple quand on apprend à monter en vélo, non? Et qu'on tombe et qu'on n'arrive pas et on sait pas pédaler et qu'il faut qu'on nous tienne par derrière, par devant. Et c'est, on est complètement pris par l'apprentissage de ce qu'on est en train de faire et on peut pas rouler tranquillement. À un moment donné, quand on a fait le vélo pendant des années, on peut pédaler tranquille et pendant qu'on pédale, notre esprit s'envole. Et la danse, quand on arrive à contrôler la technique complètement, c'est le moment où on a la grande liberté. Et là, on danse vraiment.
Que de travail il faut pour effacer le travail? Get down inside the team, bon bon. Be right here, right now. That's where we want you to be. Be right here. Right here, right now. couler. C'était David Walters avec, on l'a reconnu, Kezia Jones, qui t'est coulé.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Blanca Lee, chorégraphe, danseuse. Vous dirigez aussi la Villette, le parc de la Villette. C'est passionnant de parler avec vous de la danse. De quoi la danse nous libère? Qu'est-ce que c'est que ce processus d'allègement? Vous avez dit qu'il faut désapprendre des choses pour danser. Je précise que votre dernière création, le Bal de Paris en réalité virtuelle, revient en septembre à la scène musicale. Et qu'aussi, tout l'été, dans cette Villette que vous dirigez, il y a des expériences de cinéma en plein air.
Voilà, à partir du 23 juillet à la Villette, on commence notre cinéma d'été. Et justement, cette année, le thème, c'est la danse et la musique. Donc on va pouvoir trouver beaucoup de films de danse, de musique, et ça va être très joyeux.
Alors comment vous faites, Blanca Lee? Vous êtes complètement hyperactive. Comment vous pouvez diriger quelque chose d'énorme comme ça, un établissement public, hein, la Halle de la Villette, et puis en même temps, vos créations, d'où vous trouvez cette espèce d'énergie folle?
Je pense que c'est la danse ouais. Qui me donne beaucoup d'énergie, parce que c'est ça aussi quelque chose qu'il y a dans la danse, c'est que ça te réveille le corps, ça te réveille l'esprit, ça te libère beaucoup aussi. Je dis souvent aux gens, allez, si tu es un peu triste, si ça va pas, va danser, parce que ça te libère beaucoup, ça te fait aussi regarder les problèmes avec une autre perspective, et ça peut beaucoup aider en fait quand on va pas bien. Et c'est quelque chose que vraiment, je dis toujours, en réalité, c'est très thérapeutique.
La danse thérapie, exactement. Vous avez parfois été critiqué pour être trop commercial. Ça vous a souvent fait rire, j'ai l'impression. Et puis j'ai l'impression que après tout le monde, tous les chorégraphes ont essayé de faire comme vous.
Oui, c'est drôle parce qu'au départ, quand j'étais un des premiers chorégraphes qui faisait des vidéoclips, par exemple quand j'ai fait Daft Punk Around the World, ouais. Après j'ai commencé à travailler dans la publicité, j'ai commencé à travailler avec beaucoup de réalisateurs de cinéma. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, on me disait, oui, c'est pas possible, un chorégraphe qui fait des choses commerciales. Et en fait, moi je le faisais aussi parce que j'aimais beaucoup, j'adore travailler avec d'autres artistes, et ça m'amusait beaucoup de faire des chorégraphies, pas juste pour moi, mais par exemple pour le cinéma, j'ai appris le métier de chorégraphe du cinéma qui est complètement différent.
Oui, bien sûr.
Et dans la pub, par exemple, il faut les faire des fois des chorégraphies d'un seconde ou de deux secondes, mais qu'à la caméra, c'est énorme quand même. Et créer des mouvements de caméra, voir la danse d'un autre point de vue, et la caméra décide ce qu'elle voit. Quand on fait le spectacle pour la scène, nous on ne décide pas ce que le public voit. Et le public, il regarde, il voit tout, il choisit son point de vue. Avec le cinéma, on choisit le point de vue. C'est très intéressant, et grâce à mon travail dans le cinéma, j'ai appris moi-même à faire du cinéma. Après, j'ai réalisé 3 longs métrages, et j'ai fait plein de courts-métrages, et je continue. Là, par exemple, je viens d'être travaillé avec Pedro Almodóvar dans son dernier film.
Qui est un de vos amis de longue date, je crois. Qui est un de vos amis de longue date.
Oui. Et j'ai beaucoup travaillé avec Michel Gondry, j'ai travaillé avec Jonas Akerlund, avec plein de réalisateurs que j'adore et qui font confiance en moi pour me dire, voilà, j'ai une scène de danse, allez, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai travaillé aussi beaucoup avec la mode, Jean-Paul Gaultier, avec qui j'ai beaucoup travaillé, Alaya, enfin. C'est un autre monde auquel je me prête à l'exercice d'imaginer des choses pour les autres.
Est-ce que il faudrait pas une fête de la danse comme il y a une fête de la musique?
Bien sûr qu'il faut. J'avais fait une fête de la danse il y a quelques années au Grand Palais, qui avait très très bien marché. Pendant 2 jours, on a fêté la danse avec plus de 20 000 personnes qui sont venues. Et moi, j'ai une envie de refaire cette fête de la danse, et éventuellement que ça devienne, oui, comme la fête de la musique, pourquoi pas.
Pour qu'on rentre un peu dans un autre monde.
C'est absolument un langage. Et c'est un autre monde, dans lequel, en fait, les règles sont un petit peu différentes. Le temps est autre, aussi. Et puis, la relation à l'autre, elle se fait autrement que par le verbe. Donc, elle se fait par le regard, par le toucher, par la sensation de l'espace entre nous. Donc, on est avant tout des animaux qui avons aussi un langage et une manière d'être les uns vis-à-vis des autres qui n'a rien à voir avec l'humanité parlant.
Vous avez reconnu la chorégraphe Nathalie Pernette? Vous êtes d'accord?
Oui.
On est des animaux. Mais...
On est des animaux, ça c'est sûr. On a notre côté animaux qui est très intéressant et que nous on utilise beaucoup dans la danse. Hein. Et on est fasciné souvent par les mouvements des animaux, ouais. Qui nous inspirent beaucoup les chorégraphes.
Bah oui, les... comme on a fait les avions en regardant les oiseaux, hein.
C'est ça, c'est en plus cette élégance, cette harmonie qu'il y a dans certains mouvements des animaux. Moi, j'adore, par exemple, quand je vois les chevaux. Ouais. Et en plus, j'ai grandi en Andalousie. J'avais un oncle qui travaillait avec les chevaux qui dansent. Et ça m'a inspiré beaucoup de les voir, comment ils travaillaient, l'entraînement, les pieds, cette élégance des mouvements, les oiseaux, c'est incroyable. Vraiment, j'ai souvent utilisé dans mes chorégraphies cette inspiration des animaux pour les mouvements, parce que il y a une perfection et une élégance incroyable.
Parfois, l'hyperactif que vous êtes se met à contempler, simplement?
Oui, bien sûr. La contemplation est fondamentale. Et souvent, c'est dans ces moments de rien, de vraiment des contemplations qui peuvent venir les meilleures idées.
Je pense, en vous écoutant, à un livre que je recommande à tout le monde. Alors, c'est un livre un peu technique, mais je vous promets, on peut le lire, il faut prendre son temps. Ça s'appelle « Pourquoi la musique ?» Et c'est un philosophe, Francis Wolff, qui l'écrit. Et il raconte dans ce livre que dans la musique, on se met à bouger, mais sans aller nulle part. Et que c'est très important de comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir un but pour se mettre en mouvement.
Absolument. Et c'est ça la beauté de la danse, c'est que c'est juste comme ça. C'est quelque chose qui n'a pas un but, en fait. Et c'est vraiment le plaisir. Et tout le monde peut trouver ses plaisirs en mettant juste la musique chez soi et se lâcher complètement.
Se lâcher. Vous avez dit aussi plusieurs fois qu'il fallait désapprendre. Alors venons-en à vous plus personnellement. Qu'est-ce que vous avez désappris dans votre chemin de vie ?
Et j'ai dû désapprendre beaucoup de choses de mon éducation. Hein. Je viens quand même de l'Espagne et j'avais une éducation qui était assez conservateur, même si j'avais une mère quand même qui n'était pas du tout ce qu'étaient les femmes à l'époque, parce qu'elle a été obligée de travailler très tôt et qu'elle m'a appris qu'on pouvait être femme et très libre et qu'on devait prendre notre vie dans les mains, mais je vivais dans une société qui était assez, voilà, justement conservatrice. Mmh. Et j'ai parti quand j'avais 17 ans à New York, et en arrivant adolescent dans cette grande ville, et j'étais toute seule, je suis partie pour étudier la danse parce que j'étais obsédée avec ça, je voulais absolument, et j'ai compris qu'à les États-Unis et surtout à New York, c'était à ces moments-là un peu le centre de la danse moderne. Et mais c'est en arrivant à New York, en découvrant toutes ces sociétés, toutes ces cultures qui vivaient ensemble, toutes ces formes de danse différentes qu'il y avait, que je me suis dit, je dois laisser beaucoup de choses que j'ai appris et je dois recommencer de zéro.
Voilà, et vous avez 17 ans et vous découvrez notamment le hip-hop, évidemment, qui va marquer votre histoire, et aussi cette personne.
La loge d'une danseuse est un endroit très particulier. C'est là que le théâtre commence. Et le maquillage est un tour de magie. C'est un rituel. C'est la méthode par laquelle on devient le personnage que l'on veut incarner.
Alors c'est Martha Graham, la prof que vous découvrez à 17 ans.
Absolument, j'ai eu une chose incroyable. Et j'ai entendu parler de Martha Graham quand j'avais justement 17 ans et j'étais à Madrid. Et je venais de quitter l'équipe nationale de gymnastique rythmique. Et je savais que je voulais faire quelque chose de beaucoup plus artistique, qui n'était pas dans la gymnastique de compétition, mais qui était dans la danse. Et je devais trouver mon chemin dans la danse parce que je ne voulais pas faire la danse classique. Et je voulais trouver autre chose, quelque chose où je pouvais m'exprimer autant que créatrice, en tant que femme, en tant que danseuse. Et j'ai entendu parler de cette femme incroyable, de ce qu'elle avait inventé, sa propre histoire, sa propre technique, sa propre école. Et j'ai voulu aller étudier chez elle pour comprendre comment on pouvait être soi-même. Et c'est ça que j'ai appris avec Martha Graham, c'est que elle, un jour, elle a décidé de aussi casser les codes et inventer sa propre manière de danser à une époque où c'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui.
Ouais,
parce
sûr.
Que, à son époque, il y avait vraiment que la danse classique. Et donc, c'était cette première génération qui ont inventé la danse moderne. Et ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et j'ai beaucoup appris. Et justement, c'était pour moi un exemple d'une femme unique qui a pris on cherche sa vie et a décidé de changer son destin.
Devenir elle-même dans sa liberté. On entend beaucoup le vocabulaire de la liberté dès que vous parlez. Vous savez, la liberté, en philosophie, c'est compliqué. On a pu penser que c'était faire des choix, être indépendant. Tout ça ne marche pas. Et alors Bergson arrive et il nous dit, la liberté, écoutez bien, parce que c'est une définition de la danse. Il nous dit, Bergson, la liberté, c'est quand tes gestes te ressemblent. Quand tes actions te ressemblent. Quand tes gestes et tes actions expriment ta personnalité, comme les œuvres d'un artiste expriment la personnalité d'un artiste. Est-ce que ce n'est pas une définition de la danse ?
Oui, quelque part, effectivement, c'est une définition de la danse, parce que nos gestes expriment vraiment qui on est.
Alors on danse pour devenir soi ?
Et on danse parce que c'est une manière d'être justement libre dans l'expression de soi.
On est sous le soleil de Platon, et figurez-vous qu'à la base, dans la caverne dont il s'agit de sortir, on se met à douter de ce qu'on voit, et en fait, ce qu'on voit, ce sont des ombres portées sur la paroi interne de la caverne par des gens qui passent au-dessus en marchant. Mais il y a un petit doute, est-ce qu'ils passent en marchant? Est-ce qu'ils passent en dansant? Et puis, il y a autre chose aussi très important chez Platon, dans le banquet, c'est que pour arriver à l'idée, il faut en passer par le corps. Est-ce que c'est pas ça donc, qu'on a évoqué ensemble toute la matinée, pendant une heure? Est-ce qu'il faut pas s'alléger pour arriver à quelque chose, au fond, de quand même spirituel et presque sacré?
Pour moi, ce qui est très important, c'est de lutter toujours contre la peur.
Ouais.
Et je pense que la peur est notre frein principal. Et je pense qu'il faut... pour aussi danser bien, pour profiter de la vie, pouvoir te dire pourquoi j'ai peur, est-ce que je peux dépasser cette peur.
Et danser avec cette peur. Ce sera la conclusion. Merci beaucoup Blanche Alice, c'était génial de vous recevoir, je suis trop content. Je vais essayer, pour vous remercier, d'être honnête et de dégager la philosophie de la vie que j'ai entendue. Ben, au fond... rien n'est impossible, on a l'impression avec vous. On monte des spectacles de dingue, on se libère des peurs. Alors une philosophie évidemment nietzschéenne, hein. Je rappelle Nietzsche, ceci est mon alpha et mon oméga, que tout ce qui est lourd devienne léger, que tout corps devienne danseur, Zarathoustra, que tout esprit devienne oiseau. On imagine que si on vous invite comme ça, sans préciser, vous allez arriver avec 10 drag queens et Pedro Almodovar sans préciser, et que votre philosophie de la vie, elle est là, une philosophie de l'exubérance, de la joie d'être ensemble, de se lâcher, de se libérer. J'aurais envie de dire aussi une philosophie de l'improvisation maîtrisée, de l'improvisation qui se travaille, et en même temps vous ne tombez pas dans ce côté doloriste, aimer se faire mal, aimer la technique, une philosophie du ravissement et de cet abandon, de cette immaîtrise qui nous cueille quand on a maîtrisé, certes, mais qu'au cœur de cette maîtrise, on a surtout appris à se lâcher, que vous l'avez très bien dit, à se libérer, à désapprendre tout ce qui nous entrave. Merci beaucoup, Blanche Alice.
Merci.
Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumez, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Elle a été réalisée par Alicia Vulot, avec la technique David Diboué-Black. À demain.